Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie de Coralie Garcia. Bonjour.
Bonjour.
Coralie Garcia, vous êtes ici pour nous annoncer un plan de formation qui aura lieu à partir de mars 2020 au Greta de Die et qui sera autour de l'éco-construction.
C'est ça. Donc, on est deux organismes de formation à travailler sur cette formation, donc qui est une formation ouvrier professionnelle en éco-construction. Et donc, elle va se dérouler sur les locaux du Greta de Die, avec aussi une partie chantier éventuellement à l'ancien monastère de Sainte-Croix. Et donc c'est APLON, qui est un organisme de formation basé à Saint-Marcellin, qui coordonne cette formation et j'en fais partie.
On peut présenter ce qu'est le Greta de Die.
Eh bien, c'est un organisme de formation. Alors, ils font des formations diverses et variées. Ils font des formations pour les cordistes, pour les électriciens, pour aussi l'échafaudage, avoir des habilitations échafaudage. Et puis, ça fait un petit moment qu'ils faisaient avant des formations bâtis anciens autour de la chaux ou un petit peu éco-construction. Mais ça faisait 3-4 ans qu'ils avaient arrêté. Et là, du coup, c'était l'opportunité de recommencer quelque chose avec eux. Cette formation-là, là, OPEC, ouvrier professionnel en éco-construction, ça fait 6 ans déjà qu'on la pratique. Donc, on est avec eux pour pouvoir réintégrer un peu d'éco-construction dans le Diwa.
Le centre du Greta a dit existe depuis combien de temps déjà?
Alors, je ne saurais pas vous dire, mais ça fait un petit moment. Et puis, les Greta, c'est assez connu et reconnu. Mais voilà, ils ont quand même une bonne activité.
Vous parlez de formation en construction, éco-construction, donc ça touche de tous les domaines du bâti.
Voilà, cette formation, elle dure un an. Au total, il y a 3 mois en entreprise, en stage en entreprise. Et l'idée, c'est un petit peu de voir tout ce qui est lié à l'éco-construction. Donc on voit autant tous les principes généraux. Il y a un moment, il faut acquérir la base de ce que c'est que le bâtiment et aussi le bâtiment dans le contexte environnemental, économique, etc. qu'il y a aujourd'hui. Et ensuite, il y a toutes les parties un peu plus pratiques où on apprend les techniques de construction. Donc on a une partie plutôt ossature bois, initiation à la charpente bois. Une autre partie plutôt sur les isolants dits écologiques, matériaux biosourcés, donc tout ce qui est paille, liège, fibres de bois, balles de riz, etc. Et puis ensuite, on a une dernière partie sur tout ce qui est maçonnerie écologique, donc chaux-chanvre, terre-chanvre, poser des briques de terre crue ou faire une dalle en chaux pouzzolane, par exemple.
Vous traitez les fondations également ?
Oui, c'est possible. Après, les fondations, c'est pas forcément toujours, entre guillemets, très écologique, parce que parfois, on ne peut pas se passer de ciment. Mais voilà, il faut regarder le projet dans son ensemble. Le ciment n'est pas, entre guillemets, à complètement bannir. Il faut juste le mettre à l'endroit où il est nécessaire.
Une question naïve, la chaux ne peut pas entrer dans une composition de fondation ?
Alors, ce serait possible, tout à fait. Il existe des manières de construire avec de la chaux, ce qu'on appelle parfois des fondations cyclopéennes, fondations un peu romaines. Mais ce sont des gros, gros ouvrages. Et du coup, on essaie aussi, nous, dans cette formation, de faire en sorte que les stagiaires, ils vont être dans un contexte réel de chantier. Ils vont devenir professionnels derrière, ils vont être dans des entreprises. Et parfois, certaines techniques d'éco-construction sont plus adaptées à l'autoconstruction parce que ça a besoin de beaucoup de main-d'œuvre et que dans certains cas, financièrement, ça ne pourrait pas passer si on présentait un devis avec ce genre de fondation à des gens. Donc voilà, c'est toujours des histoires de compromis, comme partout dans la vie.
Donc les formations qui sont proposées dans cette éco-construction s'adressent à des entreprises de ce type d'activité ?
Alors là, il peut y avoir des gens qui ont déjà fait un petit peu de bâtiment, mais qui se sont jamais vraiment formés ou bien qui ont envie vraiment d'avoir un diplôme parce que cette formation, elle est diplômante. C'est-à-dire qu'à la fin, on peut aller par exemple à la chambre des métiers Et puis bon, après avoir un peu d'expérience, bah, par exemple, demander à s'installer en tant qu'ouvrier en éco-construction. Et on a le droit parce que cette formation est reconnue au niveau national. Mais voilà, ça peut être tout à fait des stagiaires qui n'ont pas d'expérience et qui viennent à cette formation. Justement, on a la chance sur cette formation qu'elle soit un petit peu plus longue que d'autres. D'habitude, c'est plutôt 9-10 mois et là, c'est 12 mois. Ce qui permet finalement d'acquérir un petit peu les bases, de mine de rien savoir couper un morceau de bois droit à la main. Sans scie circulaire ou quoi, bah, c'est pas si simple que ça, il faut l'apprendre. Et du coup, bah, nous, on va aussi mettre un petit peu l'accent dessus, donc ouvert à tout type de public, et puis donc essentiellement demandeurs d'emploi, mais c'est possible aussi si on a des droits à la formation, que ça fait longtemps qu'on travaille dans une entreprise, par exemple. Là, le public prioritaire est ceux qui n'ont pas trop de diplômes. C'est pas obligatoire, il y en a certains qui auront des diplômes qui feront partie de la formation, mais il ne faut pas hésiter, si on n'a pas le bac, on peut aussi accéder à cette formation.
Oui, parce que en final, ça permet d'avoir le niveau d'un CAP.
Voilà, c'est ça, c'est un niveau CAP. Donc voilà, il faut quand même savoir que cette formation, elle vise à avoir des gens qui sont sur chantier et qui construisent, parce que mine de rien, il y a une réelle demande là-dessus. Donc nous, voilà, c'est les gens derrière, on a envie qu'ils aient un peu d'expérience à se lancer tout de suite dans le montage d'une entreprise. C'est un peu culotté. Donc en général, on aime bien que derrière, ils trouvent un boulot. Et en général, il y a 90% des gens qui trouvent un travail après la formation. Donc il y a de la demande. Et voilà. Ouais.
L'éco-construction, c'est un secteur en développement?
Alors oui, c'est bien en développement. Et de toute façon, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas se développer. Après, de plus en plus, on a des normes aussi liées à tout ça. Parce qu'au tout début, quand il y a eu un peu le renouveau de l'éco-construction en France, dans les années 80, ben, chacun faisait un petit bout de bricolage ici et par là. Et puis des fois, faisait des maisons. Mais il n'y avait pas forcément de référentiel technique. On ne savait pas. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de filières voilà, qui se sont mis en place, qui ont écrit ces référentiels, qui ont fait des essais dans des laboratoires, qui l'ont fait reconnaître même au niveau national. Et donc, tout ça, ça permet quand même derrière d'avoir une filière qui se construit, qui s'ancre un petit peu finalement, qui arrive à avoir des technologies et même des savoir-faire qui continuent et qui sont de plus en plus efficaces et reconnues. Et du coup, il y a un développement quand même de l'éco-construction, bien entendu.
Pour être, on considère de passer par toutes les étapes de la construction, il faut quand même, pour être dans cette formation, avoir de sérieuses notions de base quand même.
Non, pas forcément, parce que justement, nous, on fait des remises à niveau, vraiment, dès le départ. Par exemple, on a la première semaine, c'est remise à niveau en maths, c'est-à-dire que c'est des maths appliquées, hein, donc des maths, on réapprend Thalès et Pythagore pour savoir comment, sur une charpente, sur une esquisse de charpente, comment calculer ces différents morceaux de bois, entre guillemets. Et puis, mine de rien, c'est de la logique. Il faut avoir peut-être un peu un esprit logique, il faut aimer le manuel parce que bon, il y a toute une partie théorie en amont, mais derrière c'est quand même travailler avec ses mains, travailler dehors. Donc ça c'est peut-être des prérequis, oui, plus qui sont importants, c'est aimer être dehors et aimer travailler avec son corps.
Et en même temps, il y a un développement de travail en atelier avant des installations sur le terrain.
Oui, 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 tout à fait. Il y a de plus en plus la préfabrication qui se développe dans plein de secteurs. Par exemple, moi, je travaille essentiellement en partie à côté de ce travail dans la construction en paille. Et il y a une bonne partie de possibilités de faire une sorte de coffrage en bois qui accueille, par exemple, un isolant. On peut même, en atelier, intégrer une menuiserie. On pourrait même intégrer un bardage et amener des éléments quasiment finis. Ce qui a des avantages et des inconvénients, hein, forcément, toujours. Mais en tout cas, en termes d'avantages pour ces gens-là, c'est que déjà, on travaille de plus chez soi, donc on est moins en déplacement, donc quand même pour certaines personnes qui ont une famille, etc., ça a son importance. Et puis aussi, on travaille à l'abri des intempéries, c'est-à-dire que finalement, la météo, on la subit surtout au moment où on déplace les éléments préfabriqués et où on les met en œuvre. Mais en général, ce sont des étapes plutôt rapides et les gens sont assez bluffés. D'ailleurs, on voit pas, en fait, c'est assez assez rigolo parce que les gens qui construisent avec des matériaux, des co-construisants qui demandent de la préfabrication, ils voient une dalle pendant longtemps et puis tout d'un coup, pouf, ils voient tout qui monte en 3D et c'est assez impressionnant. Et ils ont, bon, ils n'ont pas vu toute la partie atelier qui quand même nécessite pas mal de travail, quoi.
Par rapport à la législation sur la pénibilité du travail, il y a eu une grosse évolution aussi en parallèle de cette notion d'éco-construction.
Je ne saurais pas trop vous dire ça. Ça n'a pas non plus révolutionné les choses ces dernières années. Mais bon, par exemple, la préfabrication peut permettre de diminuer un petit peu la pénibilité du travail, notamment parce que dans un atelier, on peut avoir des ponts roulants, des choses comme ça, où on porte peut-être un petit peu moins les choses. Mais après, voilà, c'est toujours pareil au niveau de la sécurité. On essaie de faire le plus attention possible, et notamment dans cette formation, dès le départ, on habilite les gens en échafaudage, etc. On fait même un petit cours sur la sécurité au travail, même la posture, quelque chose sur les gestes et la posture pour bien travailler et garder son corps en bonne santé. Mais après, bon, ça avance quand même doucement de ce côté-là.
Dans les années 80, disons, enfin 80. Et à l'époque, c'était les sacs de ciment de 50 kilos. Maintenant, ils sont passés à 30 kilos. Hein. Donc, il y a eu une prise en compte aussi de la pénibilité des activités. Est-ce que ça s'est généralisé sur d'autres matériaux ou sur d'autres outillages même ?
Oui, bah, c'est sûr que tout ce qui est outillage... Après, c'est plus long parce que les outillages, forcément, c'est des industries qui les fabriquent, mine de rien. Alors, après, on peut fabriquer aussi ses propres outils, mais c'est quand même un peu plus artisanal. Mais ça arrive petit à petit, des pelles qui sont un peu plus en alu, avec des manches un peu moins lourdes, etc. C'est sûr qu'on y arrive. Et nous, on essaie pendant les formations souvent de sensibiliser à ça, en disant, attention, arrêtez de prendre les... Souvent, on veut montrer qu'on envoie du pâté, et donc on prend des choses très lourdes, tout ça, et puis à la fin de la journée, on est cassé. Donc, et à la fin de sa vie, on n'en parlons pas. Donc, on essaie, nous, d'apporter tout ce savoir-là et en disant, c'est pas parce que des fois on porte les choses à deux qu'on va vraiment perdre du temps sur chantier. Au contraire, on s'économise. Peut-être qu'à la fin de la journée, on sera 5 à 10% moins fatigué et du coup, on tiendra plus sur la durée aussi. Donc, c'est quand même un discours dans l'éco-construction qui se généralise. Après, au niveau des matériaux et des outillages, ça prend son petit temps quand même.
Et puis, on peut aborder aussi l'aplomb. Qu'est-ce que l'aplomb
Alors, aplomb, donc l'aplomb en soi, c'est voir si un mur est bien droit, bien vertical. Et donc, c'est le nom de notre association, donc, qui est une asso et donc aussi organisme de formation. Et donc, on dispense depuis plusieurs années des formations longues, comme cette formation OPEC, ouvrier professionnel en éco-construction. On a aussi en parallèle une formation OPRP, c'est ouvrier professionnel en restauration du patrimoine. Donc là, c'est plutôt lié au pisé, à la pierre, etc. Et puis, on fait aussi des formations courtes la prochaine, par exemple, c'est les enduitaires. Et puis même sur plein d'autres modèles. Et depuis quelques années maintenant, finalement, on développe une plateforme qui petit à petit évolue, qui s'appelle Ecomat, et qui est liée à la récupération de matériaux, plutôt du gros œuvre, matériaux de chantier, pour pouvoir les réutiliser dans des bâtiments. Donc là, ça se développe de plus en plus, le réemploi. Voilà, c'est encore assez nouveau. Enfin, en tout cas, dans les normes et dans les textes. Et nous, on essaie de mettre en place cette petite plateforme, comme ça se fait à DI aussi, au Recyclou, par exemple.
Et l'aplomb, l'association, est basée à quel endroit ?
Alors, on est basé à Saint-Marcellin, dans l'Isère.
Vous êtes donc de Saint-Marcellin, Greta est à DI. Est-ce qu'il existe aussi d'autres centres de formation avec lesquels vous collaborez pour des formations interactives, je dirais ?
Oui. Eh ben nous, on est très en lien. En fait, on est membre fondateur à plan de la fédération Éco-Construire avec d'autres organismes de formation. Donc, c'est une fédération nationale qui regroupe une douzaine, quinzaine d'organismes de formation liés à l'éco-construction. Et c'est comme ça que ben, c'est quand même compliqué, le monde de la formation. Donc, il y a plein d'étapes à franchir, etc. Et donc, ben, tous ensemble, des fois, on essaie de faire avancer les projets. Là, par exemple, le projet qui doit finir avant la fin de l'année là, de 2019, ben, c'est ce titre OPEC. Il va être renouvelé. Donc, il y a une obligation de renouvellement. Donc, on est en train, justement, de mettre à jour, etc. Donc, il y a tout un processus avec des organismes. Donc, voilà, on travaille avec des OF en Bretagne, dans le Languedoc, un peu partout en France, en fait. Et même à l'étranger, en Europe, on a pas mal de projets européens avec d'autres pays pour, justement, avancer sur les formations à l'éco-construction. En France, finalement, on a plutôt de la chance parce qu'on est assez avancé au niveau de l'éco-construction. Et donc, c'est bien, on a une bonne dynamique. Mais bon, d'autres pays sont un petit peu moins dynamiques. Voilà, mais au moins, on travaille ensemble pour que chacun progresse.
Alors, avec ces ateliers ou donc ces formations, il y a un travail sur le réel. Et pour ça, vous sollicitez des collectivités parfois ou des associations qui auraient peut-être besoin d'un petit rafraîchissement. Ça, c'est ce que vous proposez.
C'est ça, un petit rafraîchissement de façade, par exemple. Non, c'est l'idée. C'est que nous, ce qu'on aime bien à Plomb, c'est que les formateurs qui s'occupent des stagiaires, déjà, ce soit des artisans ou des entrepreneurs, donc qui sont tous les jours sur le chantier, et qui, être formateur, c'est un travail à côté, c'est pas leur travail principal. Donc ils sont au plus près de la réalité de chantier. Et c'est pour ça qu'aussi on aime bien que les stagiaires ils soient pas que sur des maquettes, dans leur petit stand d'atelier avec une hauteur qui est à 2 mètres où c'est accessible. Là on essaie de chercher des petits chantiers. Donc on est déjà en contact avec l'ancien monastère de Sainte-Croix. Voilà, j'avais une réunion justement hier avec eux. On va peut-être faire des chantiers ensemble. Et puis éventuellement, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées pour qu'on intervienne voilà, sur de l'éco-construction, pourquoi pas, ça se réfléchit. Alors, ce ne sont pas des chantiers privés, hein, comprends. On veut pas être en concurrence avec les artisans. Donc, plutôt des collectivités, des associations qui ont un petit projet et puis qui n'hésitent pas à me contacter.
Les bâtiments anciens, ou ne serait-ce que les cabanons qu'on peut voir sur le Diwa, sont considérés comme des bâtiments en éco-construction.
Alors, la différence entre guillemets, le point commun qu'il y a entre le bâti ancien et puis l'éco-construction, ce sont les matériaux. En fait, on utilise souvent les mêmes matériaux. On utilise de la terre crue, on utilise de la chaux, on utilise des matériaux végétaux. Donc, on a quand même des similarités. Et donc, nous, les personnes qui vont suivre cette formation, derrière, ils vont pouvoir tout à fait intervenir sur ce genre de bâtiment, mais pas forcément sur, par exemple, une maison en pierre. Ils ne vont pas réaliser une ouverture. Ça, ce sera plutôt d'autres personnes qui sont formées autrement. Mais par contre, ils pourront réisoler par l'intérieur avec un mélange de terre-chanvre, réisoler la toiture en insufflant de la ouate. Ils vont peut-être pouvoir monter des cloisons en briques de terre crue derrière un poêle à bois. Ou construire une petite extension aussi en ossature bois avec des isolants, etc.
Donc, ça n'aborde pas forcément le gros œuvre, hein, la construction proprement dite.
Si, c'est même plutôt essentiellement le gros œuvre. On aborde un petit peu les fondations, même les soubassements, l'ossature bois aussi, un peu la charpente même. Après, ils ne sont pas spécialistes là-dedans, hein, parce que c'est l'avantage et l'inconvénient de voir plein de choses. C'est qu'on sait un petit peu tout, mais on ne sait pas tout bien. Mais au moins, les gens, après, peuvent un peu s'orienter vers ce qu'ils ont préféré pendant la formation. Mais si, l'idée, c'est que c'est plutôt du gros œuvre. Et toute la partie, par exemple, électricité, plomberie, tout ça, nous, on ne voit pas. Ce n'est pas notre corps de métier. Et même tout ce qui est peinture, on ne fait pas trop. On fait un peu des enduits de finition, mais plutôt, on viendra faire la couche de corps, c'est-à-dire celle qui apporte la planéité. Et la finition, ce sera du plus.
La région recèle de diverses techniques, hein, de construction. Est-ce que ça permet aussi, cette formation, de s'ouvrir à ces techniques et d'y comprendre les principes, peut-être ?
Alors, tout à fait. L'idée, c'est que dans l'éco-construction, quand on est professionnel, il vaut mieux choisir des techniques qui sont normées. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les constructions en chaux-chanvre, elles ont des normes. Les constructions en bois, elles ont des normes. La paille a des normes. La terre crue aussi commence à avoir des référentiels et quelques normes. Souvent qu'on appelle des règles professionnelles ou des règles de bonne pratique. Je vais y arriver. Mais on ne s'interdit pas aussi de regarder des techniques qui ne sont pas encore extrêmement normées, mais qui ont quand même une avancée suffisante en termes de technique. Par exemple, dans le coin, dans le Diwa, ou pas très loin d'ici en tout cas, il y a le petit épeautre qui est assez développé. Et donc, il est tout à fait, par exemple, possible d'utiliser la balle de petit épeautre, c'est-à-dire l'enveloppe qui entoure le grain, pour faire de l'isolation. Alors, ça marche bien en vrac, par exemple. Et donc, voilà, c'est un matériau qui, aujourd'hui, n'a pas encore de reconnaissance officielle, mais qu'on sait comment le mettre en œuvre, qu'il y a des artisans déjà qui le mettent en œuvre, des entreprises aussi. Et donc, nous, on essaie d'encourager ça parce que, mine de rien, plus on en fera, plus on aura du retour d'expérience et plus le matériau pourra se développer. Donc voilà, on fait un peu un mix entre les deux.
Alors, cette formation commencera en mars 2020. Les inscriptions ont déjà commencé. Et d'ailleurs, quelle est la procédure pour s'y inscrire ?
Déjà, qu'on n'hésite pas à me contacter par mail ou par téléphone. Si je ne réponds pas, on me laisse un petit message. L'idée, c'est que nous, on fait remplir un petit dossier de candidature. Relativement classique, avec un petit CV, une petite lettre de motivation, après qu'on se soit appelé, bien sûr. Et puis ensuite, on demande un entretien individuel avec les gens. Donc, il y a une information collective, normalement la dernière, qui aura lieu le 15 janvier au Greta de Die, mais on peut aussi faire un entretien individuel avant. Et puis, en fonction des profils, soit moi, je recommande éventuellement, parce que des fois, les gens, ils idéalisent un petit peu le chantier. Donc, on leur dit, allez peut-être faire une semaine ou deux dans une petite entreprise pour voir ce que c'est que le chantier, pour voir si ça vous plaît vraiment, avant de s'engager dans une formation de 1 an où finalement, peut-être on se dit, mais en fait, je ne suis peut-être pas fait pour ça. Voilà. Donc, c'est cet entretien individuel qui va permettre un petit peu de savoir comment vous positionner. Et puis, bien sûr, après, il y a une sélection des candidatures parce que tout le monde ne va pas être retenu. Et donc ça se fera à partir du 7-18 janvier, quelque chose comme ça.
Donc pour vous joindre, il s'agirait de faire quoi ?
Alors je vais vous donner mon numéro de téléphone et mon mail, donc prenez un stylo. Donc mon numéro de téléphone, c'est le 06 16 45 22 90. 06 16 45 22 90. Et mon mail, c'est Garcia, G-A-R-C-I-A, @aplomb38.
Les formateurs qui sont présents entre l'Aplomb et le Greta sont des artisans, vous le disiez, toujours en exercice.
Alors oui, ce sont des artisans qui ont une entreprise, qui ont parfois travaillé plutôt seul ou avec d'autres entrepreneurs et parfois même des salariés. Donc c'est un mix entre tout ça. Donc certaines personnes qui travaillent dans le Diwa ou près de Cré, etc. Puis d'autres formateurs de chez nous avec qui on a plus l'habitude de travailler. Voilà, on fait un petit mix entre les deux. Et donc vraiment ils sont habitués au chantier et puis nous en amont de ça, comme ce sont quand même principalement des artisans, on fait une petite formation de formateurs pour que les gens sachent un petit peu plus comment aborder cette formation et qu'ils aient un peu plus de billes par rapport à ça.
Par rapport aux compagnons, vous vous situez à quel moment est-ce que vous êtes en relation parfois avec des formateurs qui émanent des compagnons et déjà de créer ses propres outils ?
Alors les compagnons, c'est compliqué, ils sont trois organismes différents. On travaille avec, on a travaillé déjà avec deux d'entre eux sur d'autres projets, donc on les connaît. Après eux, ils ont tout un procédé, un processus qui est bien établi. C'est quand même quelque chose d'assez bien rodé de leur côté. Donc bien sûr, on travaille avec eux et souvent ils sont assez sensibles à la construction bois par exemple ou à la construction traditionnelle. Et du coup, les matériaux biosourcés, ça rentre petit à petit dans leurs habitudes parce que ça devient de plus en plus nécessaire. Mais non, on travaille avec eux. Et puis il y a certains artisans et donc futurs formateurs qui ont été compagnons. Donc, dans notre réseau d'entreprises et d'artisans, il y a des gens qui ont fait les compagnons, ouais.
Et vous-même êtes entrepreneuse dans le domaine de l'isolation ?
Alors, j'ai fait un petit peu de chantier, mais ce n'est pas ma principale activité. Donc, j'ai une entreprise, moi, qui fait aussi un peu plus du conseil et qui accompagne certains projets pour, quelque part, élaborer un petit peu soit des règles techniques, soit des essais en laboratoire pour valider des projets un peu innovants, entre guillemets. Par exemple, si un lycée veut être isolé en paille et qu'il a des exigences incendie importantes, moi, je peux les accompagner sur ce genre de choses. Donc, c'est quand même des procédés très en amont. Et une des autres activités, là, par exemple, que je fais en ce moment, c'est accompagner les chaumiers, donc, c'est-à-dire les gens qui font des toitures en chaume, à écrire un petit peu des règles professionnelles, donc des règles de l'art de la construction, parce qu'ils transmettent ça souvent de père en fils. Et comme aujourd'hui, le métier est un petit peu moins valorisé, ils ont besoin un petit peu de reposer les bases. Et moi, j'ai cette expertise avec d'autres personnes de les accompagner là-dedans. Eux, ils ont la technique. Nous, on a cette expertise d'écrire des documents, de faire des essais en parallèle. Et donc, voilà, on travaille ensemble et c'est un chouette métier aussi.
Les toits en chaume se sont adaptés aussi aux normes de sécurité aujourd'hui par rapport aux incendies en premier lieu. C'était un principal souci hein, des habitations même d'Andy. Hein. Je crois que ça fait à peine un siècle et demi que les tuiles sont arrivées, voilà, par décret préfectoral d'ailleurs.
Oui, c'était à l'époque c'était une grande question. Aujourd'hui, il y a certains territoires. Moi, je travaille par exemple pas mal avec le parc naturel régional de Brières à côté de Guérande. Eux, ils ont plus de 3000 chaumières là-bas, donc c'est quand même assez énorme. Et c'est une des techniques patrimoniales, donc ça s'est un petit peu adapté, mais pas tant que ça. La technique est plutôt restée assez identique. Par contre, aujourd'hui, par rapport au feu, ce qui se fait souvent, c'est que de toute façon, maintenant, en sous-face, on a une sorte de placo, ou en tout cas une plaque qui, en tout cas, fait qu'on ne voit plus le chaume directement. Donc ça doit quand même bien limiter les problématiques liées à l'incendie.
Donc, vous parlez de développement, hein, de l'éco-construction, législation oblige hein, d'ailleurs. Est-ce que cela permet un rabaissement des prix d'ailleurs ? Est-ce que ça se démocratise un peu ?
Alors, forcément, plus la réglementation thermique est exigeante, c'est-à-dire plus on demande à ce que des bâtiments soient isolés, plus nous, on devient compétitifs parce que, par exemple, sur certaines techniques, on faisait déjà des bâtiments passifs, pour du neuf par exemple, et donc on était déjà à des normes dans 30 ans, qui vont arriver dans 30 ans, donc plus les autres sont obligés entre guillemets de rajouter des centimètres pour être isolés, mieux c'est. Et même il y a de plus en plus quelque chose qui est pris en compte au niveau national, c'est le confort d'été. Et le confort d'été, avec certains matériaux plus conventionnels, c'est parfois difficile d'avoir un bâtiment où il ne fait pas chaud à l'intérieur, alors qu'avec certains isolants biosourcés, on a des isolants qui sont un petit peu plus lourds, plus massifs. Et du coup, on a des bons conforts d'été aussi. Donc voilà. Et puis, plus l'isolation augmente, plus le confort d'été est important. Donc oui, ça se développe bien. Ouais.
Pour les personnes qui viendront en formation, vous prévoyez un système d'hébergement ? Comment ça se passe ?
Alors, normalement, ce n'est pas à l'organisme de formation de s'en occuper, mais on a une petite spécificité à Aplomb, c'est qu'on aime bien quand même accompagner les gens pour que leur formation se déroule bien. Et mine de rien, s'ils n'ont pas trouvé d'appartement, etc., c'est aussi un frein en plus au bon suivi de la formation. Donc nous, on va essayer, c'est un petit appel aussi aux gens du coin. On va essayer de soit contacter les services HLM, soit la mairie, soit d'autres, soit même des particuliers qui potentiellement peuvent louer des appartements. Nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on met en place des petites colocations. Hein, donc voilà, il y a quand même 12 personnes qui vont arriver sur 10. Alors certains, d'ailleurs, si vous habitez déjà sur 10, vous pouvez aussi postuler à la formation. Hein, ça fera un logement de moins à trouver. Et puis quelqu'un du coin. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on va sûrement avoir entre 6 et 12 personnes à loger. Et voilà, donc on va commencer les investigations.
Coralie Garcia, la visibilité du Greta sur Internet, comment peut-on la trouver ?
Alors, le Greta, vous cherchez Greta Di ou Greta Viva 5, vous pouvez avoir leur site internet. Par contre, pour cette formation, vous aurez un petit peu plus d'informations sur le site d'Aplomb. Vous tapez Aplomb Saint-Morcellin, le site est en train de changer, donc il y a une petite transition qui s'opère. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à m'appeler. Voilà, moi, je donne les infos, j'essaie de voir si ça peut coller à votre envie, à votre projet. Et je pense que c'est déjà un bon début de se contacter par téléphone.
Et le bâtiment traditionnel, c'est-à-dire la Fédération du bâtiment des travaux publics, qui nous sollicite souvent pour des constructions, une belle construction en béton, il n'y a pas de pont entre vous ?
Si, il y a quand même des ponts. Hein. Mine de rien, on a beau être dans l'éco-construction, on fait partie quand même du domaine du bâtiment. Donc il y a des gens de chez nous qui font partie de la FFB, qui font partie de la CAPEB, etc. pas énormément, forcément, puis il faut avoir envie de s'investir dans des organisations aussi importantes. Mais quand même, on travaille un petit peu avec eux de temps en temps. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la révolution de leur côté. Par exemple, nous, on a été très contents quand il y a la FFB, donc Fédération Française du Bâtiment de l'Oise, dans le département de l'Oise, qui a décidé de construire son siège social en bottes de paille. Et là, quand on a entendu ça, on a fait « Ah, ça y est, on a franchi une étape !» Et donc, il y a certains comme ça, certains décideurs, certaines personnes qui ont un petit peu de pouvoir aujourd'hui, qui sont en train d'opérer des changements, et pas uniquement pour le greenwashing, parce qu'ils n'en font pas toujours la pub. C'est plutôt nous, maintenant, qu'en faisant la pub, que la FFB a fait un bâtiment en paille. Mais voilà, il y a par exemple une caserne de pompiers aussi qui a été isolée en paille. Donc ça aussi, on se dit « Ah, bon, ben, voilà, l'a priori sur la botte de paille prend en feu, si des pompiers ont construit en paille, c'est que quand même, il y a une avancée. Et donc, petit à petit, tout le monde s'y met et tout le monde essaie de voir quelles sont les solutions possibles.
Et puis d'ailleurs, le béton traverse une crise, surtout par rapport au sable, qui se fait de plus en plus rare, donc qui relève les coûts. Est-ce qu'ils seront obligés eux-mêmes, finalement, de se tourner vers les coûts construction ?
Ah ben, il y a déjà pas mal de projets de recherche de ce qu'ils appellent le béton vert, etc., où ils essaient de rajouter un petit peu des plantes dedans, des choses comme ça. Bon, voilà, c'est aujourd'hui beaucoup de projets de recherche, mais bon, ils voient bien que de toute façon, ils vont être obligés à un moment de changer un petit peu leur procédé de construction. Ça ne veut pas dire derrière que tous les bâtiments seront en éco-construction, mais ils sont obligés de trouver des alternatives. Et c'est vrai que parfois on se dit « Ah mais la crise du sable, c'est pas pour tout de suite, etc. » Ben moi, il y a déjà 4 ou 5 ans, j'ai fait un chantier en Angleterre où c'était des enduits chauds sur une maison en paille et ils ne trouvaient pas de sable. Et donc j'ai fait des enduits avec du sable, c'était du vert recyclé. Donc mon sable était un peu vert, un peu gris, un peu doré. Et voilà, c'était concret, quoi. J'avais mais même pas du vrai sable, mais du vert concassé. Donc ça y est, en fait, ça commence à arriver. Et puis, il y a l'année dernière, il y a eu aussi une crise, par exemple, à un moment dans le polystyrène, une sorte de polystyrène. Alors, je ne m'y connais pas beaucoup en matériaux conventionnels. Mais il y avait un des produits qui faisait partie de la composition du polystyrène qui ne pouvait plus être produit dans les usines d'Europe de l'Est. Et du coup, il y avait une crise, il n'y avait plus de matériaux. Et pendant 3 ou 4 mois, une bonne partie des chantiers d'isolation de toiture ont dû être arrêté par manque de matériaux. Chose problématique qu'on n'aurait pas si on prenait des matériaux et locaux et abondants comme la terre, la paille, la balle.
Ils n'ont pas jugé utile de remplacer le polystyrène par du matériau écologique.
Ah, c'est bien ancré en eux quand même. Donc
oui.
Voilà, il faut petit à petit leur faire passer l'info aussi parce que quand ils ont le nez dans le guidon, moi j'en ai des grosses sociétés de construction au téléphone des fois qui m'appellent et qui sont à fond. Alors oui, j'ai entendu qu'on peut faire des bâtiments en paille. Et moi, je suis là, oula, doucement. Voilà, c'est pas pareil que d'habitude, c'est un petit peu différent. Mais voilà, il faut qu'ils prennent le temps de se former. Ils sont pas forcément contre. C'est pas tant que ça leur fait un peu gagner de l'argent, ça va. Mais voilà, c'est des nouvelles choses à apprendre, à appréhender. Il leur faut le temps, comme tout le monde, pour changer.
Vous parliez aussi de l'OPRP hein, sur le patrimoine.
Oui,
voilà.
Alors voilà.
Ça, c'est une formation que vous délivrez aussi entre l'Aplomb ou le Greta.
Alors, au Greta, il n'y a pas encore de formation OPRP, donc ouvrier professionnel en restauration du patrimoine. Mais à Aplomb, jusqu'ici, on en a une par an. Donc là, voilà, c'est plutôt orienté valorisation, restauration du patrimoine. Et ça a un peu des similarités, mais voilà, on est vraiment sur le bâti ancien, quoi.
La taille de pierre y est comprise ?
Tout à fait, taille de pierre, oui.
Et donc, pour ce type d'activité, forcément, vous travaillez avec des historiens ou des conservateurs qui ont des normes ou des spécificités bien précises liées au monument lui-même. C'est un travail d'historien aussi, cette formation ?
Un petit peu. Alors, on travaille. Il y a des historiens qui sont intéressés par ça, mais de là à ce que vraiment ils travaillent avec nous, c'est autre chose. Mais par contre, il y a des architectes qui sont vraiment sensibilisés à ça. Donc, nous, on a une des coordonnatrices à Aplomb est architecte et passionnée par le bâti ancien. Et puis, on a des entrepreneurs aussi, des formateurs qui sont formateurs chez nous et qui sont entrepreneurs, que ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils font du pisé, qui sont passionnés par ça. Et voilà, c'est aussi des très beaux métiers. Et donc, voilà, des gens passionnés et forcément qui s'intéressent à l'histoire de l'art et à l'histoire de l'art du bâtiment.
Vous avez des liens avec Timur ?
Alors, je le connais par connaissance interposée. Ouais.
D'accord. Et vous avez établi des fois des échanges ou des initiations avec sa technique ?
Oui, après, il a une technique qui est ancestrale un petit peu, hein, technique du pisé. Hein, mais,
que l'on voit beaucoup dans le Diwa encore.
Que l'on voit dans le Diwa, qu'on voit dans une bonne partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et il y a une association qui s'appelait Terra, qui a aussi beaucoup milité pour faire reconnaître le pisé. Donc ce sont des banchages avec de la terre crue compactée à l'intérieur. Mais il y a plein de personnes qui travaillent depuis très longtemps là-dedans. Et notamment, là, il y a Nicolas Meunier, qui est un artisan, ça fait des dizaines d'années qu'il travaille la terre crue, qui a construit avec son équipe un gros bâtiment à Lyon Confluence, de plusieurs niveaux, en pisé. Donc, voilà, c'est possible de le faire. Et puis, voilà, ils l'ont réalisé dans des temps, dans des délais tout à fait convenables et avec des prix tout à fait convenables.
Le pisé nécessite quand même une structure, hein, soit en bois ou en acier, non ?
Non.
Elle peut être totalement homogène.
Justement, le pisé, c'est un élément porteur. Hein. Donc, c'est tout à fait possible d'en avoir que les murs ne soient que du pisé, que de la terre crue. Et puis, avant d'arriver à casser un mur en pisé, voilà, il faut voilà, c'est quand même pas rien. Donc, non, ça se tient tout seul, oui.
Eh bien, Coralie Garcia, je vous remercie donc d'être venue nous parler de cette formation en éco-construction qui commencera donc en mars 2020 au Greta de Die. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17-18 janvier 2020. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci à vous.
Au revoir.